RFI, les 7h à Paris, 6h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et on est avec Julien Coquelrem pour le journal. Bonjour Julien.
Bonjour Andréane. Peut-on parler d'une marche arrière de Donald Trump à Davos hier? Après avoir déjà renoncé publiquement à employer la force pour s'emparer du Groenland, le président américain a créé la surprise hier soir en annonçant la levée de ses menaces de droits de douane sur ce dossier contre des pays européens. Il affirme qu'un cadre pour un futur accord a été trouvé après un échange avec le chef de l'OTAN. On fait le point dans un instant sur le peu de détails qui ont filtré depuis. À la une également l'Iran, où la télévision d'État donne un premier bilan officiel et réécrit l'histoire de la répression du mouvement de contestation, on appellera Téhéran. Dans ce journal aussi, le géant français du nucléaire, Orano, bien déterminé à poursuivre ses actions judiciaires contre la junte au Niger. Après la saisie de son stock d'uranium que Niamey souhaite désormais vendre, et puis deux peuples séparés de 10 000 km mais réunis autour d'un même combat contre les filiales du groupe Bolloré, le documentaire Pilleur de terre à la fin de cette édition.
Faut-il croire de ses propos d'hier? Que fallait-il croire de ses propos d'avant? Donald Trump a créé la surprise hier à Davos.
Au Forum économique mondial où le président américain arrivait après avoir montré les muscles ces derniers jours, menaçant les Européens pour les pousser à lui céder le Groenland et n'excluant pas une intervention militaire pour parvenir à ses fins. Mais s'il a attaqué frontalement les dirigeants du vieux continent et multiplié les contre-vérités, le président américain a légèrement détendu l'atmosphère en annonçant tout d'abord dans son discours qu'il n'emploierait finalement pas la force et en annonçant quelques heures plus tard la levée de ses menaces de sanctions douanières contre plusieurs pays européens. Donald Trump évoque désormais un cadre trouvé pour un futur accord sur le Groenland avec le chef de l'OTAN. Le flou demeure ceci dit pour l'instant, Nicolas Roca.
On a le cadre d'un accord, je pense que ce sera un bon accord pour nous, pour eux. On va travailler ensemble sur quelque chose qui aura un rapport avec l'Arctique, le Groenland et la sécurité, une sécurité forte parmi d'autres sujets. C'est peu de choses que de dire que Donald Trump est resté flou sur son projet d'accord censé durer pour toujours dans son interview à la chaîne CNBC. La sécurité, les minerais devraient en faire partie, comme le Dôme d'Or, un vaste projet de Donald Trump qui vise à intercepter des missiles balistiques intercontinentaux et pour lequel, selon lui, le Groenland est vital. Un revirement éclair du président américain alors que l'escalade semblait avancer avec les Européens. Ce volte-face a eu lieu à la suite d'une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a tenté de rassurer le président américain. Les Européens ne payaient pas autant que les États-Unis et nous avons réussi à résoudre ce problème. C'est crucial car nous avons besoin d'argent pour nous protéger. Aujourd'hui, hier, vous disiez que vous n'étiez pas certain que les Européens viendraient à votre rescousse, mais laissez-moi vous le dire, ils seront là. Le Danemark, le Groenland et les États-Unis négocieront pour empêcher la Chine et la Russie de s'implanter sur l'île, a annoncé l'OTAN, tandis que Copenhague a évoqué des messages positifs.
Nicolas Roca, alors quelle forme pourrait prendre cet accord pour satisfaire Donald Trump, lui qui continuait de marteler quelques heures auparavant qu'il souhaitait posséder pleinement le Groenland? Le journal Le Monde évoque ce matin une proposition que Mark Rutte aurait faite au président américain, accorder aux États-Unis la souveraineté sur une base militaire du Groenland. Le New York Times, qui cite trois hauts responsables proches des discussions, ajoute que le Danemark pourrait aussi céder des parcelles de territoire aux États-Unis pour l'implantation d'autres bases. Tout cela reste très incertain. Le secrétaire général de l'OTAN a précisé cette nuit que le maintien du Groenland au sein du royaume du Danemark n'avait pas été évoqué lors de sa conversation avec Donald Trump. Et toute mesure dans ce sens nécessiterait l'accord du Danemark et du Groenland.
On assiste peut-être en tout cas à un début de désescalade alors que les Européens étaient prêts à monter au créneau.
Ils envisageaient face aux menaces américaines d'activer pour la toute première fois l'instrument anti-coercition de l'Union Européenne, présenté comme une arme nucléaire économique par certains. Alors cette fermeté a-t-elle joué dans ce revirement? C'est ce que pense Muriel Domenach, ancienne ambassadrice de la France auprès de l'OTAN.
Ce qui est certain, c'est que la fermeté des Européens a payé, associé à de la diplomatie sous les auspices de l'OTAN, mais à la veille d'une réunion du Conseil européen. Et probablement, l'initiative française, non seulement de déployer une mission de reconnaissance au Groenland la semaine dernière, mais après de proposer une participation à un exercice dans le cadre de l'OTAN pour la sécurisation du Groenland, puisque vous demandez demander aux Européens de prendre davantage de responsabilités, nous vous répondons en vous disant que nous sommes prêts à le faire, y compris dans le cadre de l'OTAN. Je pense que la posture de fermeté des Européens, ça a pesé sur l'équation politique de Donald Trump, y compris sur la scène intérieure américaine, où on voit que de plus en plus de voix se sont élevées contre la volonté de prédation et de saisie territoriale du Groenland.
Et des Européens qui restent, ceci dit, sur leur garde. Les 27 maintiennent le sommet convoqué en urgence ce week-end, aujourd'hui à Bruxelles.
Dans l'actualité également, Julien, une question lancinante. Depuis 2 semaines, combien de morts dans la répression en Iran ?
Alors que le blocage d'Internet dure depuis maintenant 15 jours dans le pays et que la répression de la contestation déclenchée à Téhéran fin décembre a été particulièrement sanglante, l'ONG Iran Human Rights parle d'un bilan qui pourrait aller jusqu'à 25 000 morts. Et pour la première fois hier, les autorités iraniennes ont donné leurs propres chiffres précis. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Téhéran reconnaît des milliers de morts, mais présente sa propre version des faits.
Absolument. C'est le Conseil de la Sécurité nationale, qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui a donné ce premier bilan. 3117 personnes ont été tuées, en particulier dans les journées du 8 et 9 janvier, lorsqu'il y a eu les plus importantes manifestations à travers le pays, après l'appel lancé par Reza Pahlavi, le fils de l'ancien monarque. Mais selon ce communiqué, les 3/4 des victimes, c'est-à-dire 2427 personnes, sont en fait des membres des forces de l'ordre ou des innocents tués par des groupes armés. Selon la version de Téhéran, des groupes armés entraînés par les services de renseignement israéliens ou américains ont tenté de prendre le contrôle des villes. Une version totalement à l'opposé de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, notamment des organisations des droits de l'homme à l'étranger qui accusent le pouvoir iranien d'être responsable de milliers de morts. Le président Pezeshkian a même affirmé hier que le projet des ennemis était de renverser le pouvoir iranien. De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur a parlé d'une tentative de coup d'État. Il a affirmé que des manifestations ou des troubles, selon les termes utilisés par le pouvoir, avaient eu lieu dans 4000 points à travers le pays, dont 100 dans la capitale, ce qui montre l'ampleur du mouvement.
Siavosh Ghazi à Téhéran pour RFI, merci beaucoup. Dans l'actualité ce matin, un bilan qui s'alourdit également cette fois au Pakistan. 55 morts désormais dans l'incendie d'un centre commercial survenu samedi à Karachi. Les familles qui attendent encore de connaître le sort de leurs proches disparus critiquent les autorités pour la lenteur des opérations de recherche.
En France, le malaise politique à droite alors que le feuilleton budgétaire se poursuit.
Et que la loi de finances devrait être adoptée prochainement grâce à l'article 49.3 de la Constitution, l'engagement de la responsabilité du gouvernement de Sébastien Lecornu qui devrait éviter la censure grâce à ses concessions au Parti Socialiste. De quoi gêner les 50 députés du groupe Les Républicains qui ne vont pas faire tomber le gouvernement. Mais la décision fait ressortir d'énièmes divisions au sein du parti, Raphaël Delvolvé.
Quand il s'agit de censure, le vrai chef à droite, c'est Laurent Wauquiez. Le patron des députés LR a tué le suspense ce mercredi à l'Assemblée nationale.
Dans le contexte international de danger qui est celui de la France, de menace d'une guerre commerciale, il ne serait pas sérieux de faire tomber un gouvernement et de laisser la France sans budget.
Laurent Wauquiez met en avant le contexte international et va même jusqu'à trouver des points positifs au budget Lecornu.
Non, c'est pas un budget socialiste. La gauche nous promettait la taxe Zuckmann. Il n'y a pas la taxe Zuckmann dans le budget. On a réussi à préserver l'abattement des retraités.
Cette ligne n'est cependant que la sienne. Le patron du parti, Bruno Retailleau, lui qualifie le budget de socialiste sans pour autant appeler à la censure. Il appelle à attendre 2027 pour trancher, je cite, le vrai débat. Tandis que ce mercredi matin, le maire de Cannes, David Lisnard, qui aimerait représenter LR à la prochaine présidentielle, affiche lui une ligne radicalement différente.
Alors, LR devrait déposer une motion de censure, proposer un contre-budget.
Cette ligne dissidente n'est représentée que par une seule voix au sein du groupe des députés LR, pas de quoi donc faire basculer le vote de ce vendredi, mais qui a tout de même un écho non négligeable au sein du parti, où l'on n'hésite pas à parler d'un très mauvais budget, risquant de faire fuir les électeurs séduits par notre discours pro-business, même si dans l'entourage de Bruno Retailleau, on l'assure, personne au parti n'est prêt à assumer le chaos qui naîtrait d'une éventuelle censure.
Raphaël Delvolvé.
Et la France, où les sénateurs se penchaient hier, Julien, sur les difficultés du géant français du nucléaire au Niger.
Orano, dont la filiale a été nationalisée par la junte au pouvoir à Niamey et dont le président du conseil d'administration était auditionné ce mercredi au Sénat. Claude Imoven promet de poursuivre ses actions judiciaires contre l'État nigérien qui cherche à vendre le stock d'uranium produit par Orano qu'il a saisi. Des poursuites aussi contre ceux qui pourraient s'en porter acquéreur.
La junte au pouvoir nous a exproprié. Nous avons lancé, comme le prévoyaient nos accords, des arbitrages. Il y en a 4 en cours. Il y a eu une première décision qui était favorable. que l'État nigérien n'a pas respecté. Ça a été une première décision de l'un des tribunaux arbitraux de dire « vous ne touchez pas au stock ». Ce stock, il représente quand même 300 millions d'euros. Nous ne sommes pas sur le terrain, nous n'avons pas d'informations directes. Nous savons qu'une partie de ce stock a été déplacée vers Niamey. Pour ce que nous savons, mais on n'y est pas, il est toujours là-bas. Donc on ne sait pas à qui il est destiné et comment il va sortir. En tout cas, il est clair que nous préserverons nos droits par tout effet. C'est-à-dire que nos procédures juridiques s'adressent à l'État nigérien, mais aussi à quiconque extérieur pourrait vouloir prendre des intérêts sur ce que nous considérons comme étant notre propriété en partie.
Le président du conseil d'administration d'Orano, auditionné au Sénat hier à Paris, alors qu'une enquête pour vol en bande organisée a été ouverte en France, Niamey estime de son côté exercer le droit légitime du Niger de disposer de ses richesses naturelles.
Et puis des terres grignotées par des multinationales et deux peuples autochtones réunis par le même combat.
C'est ce que raconte le documentaire Pilleurs de terres, consacré à deux peuples séparés de 10 000 kilomètres. Les Bunong du Cambodge et les Bagheli du Cameroun engagés dans un combat juridique contre la Socfin et la Socapalm, deux filiales du groupe Bolloré. Fanny Paloma, la réalisatrice de ce film à voir sur la plateforme en ligne Relais, raconte leur lutte pour prouver la responsabilité de la multinationale dans les agissements de ces filiales. Un documentaire qui questionne aussi la relation de chacun à sa terre et la continuité du colonialisme, Léa Boutin-Rivière.
Enfant, j'ai lu Extinction des peuples autochtones dans les livres d'histoire. Puis j'ai entendu les mêmes mots. Au présent.
Pendant 6 ans, Fanny Paloma a enchaîné les allers-retours entre le Cameroun et le Cambodge, où les terres occupées depuis des générations par les peuples autochtones sont tombées entre les mains de diverses multinationales. À la clé pour les entreprises, des matières premières et des profits, les peuples autochtones, eux, se trouvent privés de leurs terres et surtout de leur façon de vivre.
On avait tout notre pharmacie nécessaire.
L'important, c'est d'être riche à gauche. On s'en fout du fric. L'important, c'est de rien foutre. À droite, on n'aime pas trop les Arabes et les Noirs. Mais tant mieux comme ça, à gauche, nous, on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas, ils seraient pas juste amoureux. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer. Ça donne le cancer. Et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leur chimio et leur perruque. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous. Sinon c'est contraire au principe de l'égalité qui est à la base de nos valeurs républicaines. Puis là j'ai rajouté une fin. À droite, à chaque fois qu'on viole une meuf, les gens ils trouvent ça franchement dégueulasse. À gauche, on viole tout ce qu'on veut, les gens ils vont penser que c'était un complot.
Vous cherchez un emploi, une orientation professionnelle, une formation? Rendez-vous les 23 et 24 janvier au Salon des métiers de l'emploi, de l'orientation et des formations supérieures organisé par l'agglomération Évreux Porte de Normandie avec le soutien financier de la CCI. À la Halle des Expositions d'Évreux, 150 organismes et établissements d'enseignement supérieur présenteront leurs formations et des employeurs leurs postes à pourvoir. Sur place également, démonstration métier, tests d'orientation et conseils pour votre voie professionnelle. Venez avec votre CV. Plus d'infos sur evreuxportedenormandie.fr.
Entre nous, n'y ait pas patience. Vois le jour. Progresse pas de chance. On est toujours volontaire. Dire ce que j'aurais dû faire, certainement. Au conditionnel, y en a tellement qui ressuscitent nos pas de réussite. Viens faire chier le monde, juste un effet de mode. T'inquiète, l'instant d'après ce sera oublié, vite plié. Surdimensionné, bien sûr dédimensionné. Hip hop crade. Jack, les gars en parlent, mais bon, est-ce qu'on vend du rêve? Est-ce qu'on va durer? Mémoire facile, souvenir effacé. Suis-je pure invention ou bientôt dépassé? On s'étonne, on s'est donné du style, donc tout est permis. C'est dirt, gratte comme un sous-sol dans Paris. C'est sûr, ça te parle, vas-y, bouge d'ici. J'ai dit, c'est dirt, gratte comme un sous-sol dans Paris. C'est sûr, ça te parle, vas-y, bouge d'ici.
sais quoi, marche sur ton stylo, y'a trop de kilos sur les bas. Tu sais comme l'inspi est dark, aussi comme l'instru est basse. Entre nous, nous dépasse patience, patience. Vois le jour, progresse, opium, texte, et y'a ma morphine et profine et termine. Néné, c'est un sentiment. Dirt, crade, vas-y, bouge d'ici, bouge d'ici.
C'est de la musique de souterrain, même si sans un souterrain, c'est le son des catacombes. D'ici on voit plus loin, qu'on faut pas les démons et les ombres, moi et puis les autres, qu'on faut pas les pigeons, les colombes, les diamants et les hommes. Non t'es pas charismatique, c'est mon majeur qui te le dit, des sous-sols à l'infini, un but crade tout en poésie. Pas de place pour tes potes ici, plus d'art c'est crade comme un sous-sol dans Paris. On distribue les cordes, on remballe les cordes. Et ouais mon gars la MZ, elle t'a mis dans les cordes, pas de mamzelle. T'es juste bonne école, pas élevé à la bonne école. Alcool sec pour les temples, la vie n'est pas commode, c'est dirt, crade comme un sous-sol dans Paris. C'est sûr ça te parle, vas-y bouge d'ici. J'ai dit c'est dirt, crade comme un sous-sol dans Paris. J'ai élevé la basse dans les sous-sols, dans les galeries. Quand le plan B aura foiré, on viendra faire flamber les flambis. Fanatisé, moi je suis canalisé, on fera la peau comme Kenny. On exploite, exploite, importe, importe. On squatte dans les souterrains, souterrains. Même si tu crois que sans un souterrain, plus qu'à Paris c'est 3 cm, cerveau cul à point, cul à point. Ok c'est dirt, crade à tel point de mon retour, je me lâche au pirate sous les terres. Jamais en solitaire, on oublie les querelles pour un jour. Après on fera la caisse, toujours fort et plus loin. Construire son parcours, c'est sûr ça parle. Vas-y cours, c'est dirt, crade. Bouge d'ici, yeah. J'ai tout pris, c'est dur, j'ai durci mon jeu. Donner mon avis, me baisse pas les yeux. Voir d'habitude le temps que ça dure. Quand on sature, Atari Big, statue immobilisée, électricité. Dirt, crade dans Paris, brûlé aux portes, t'es laissé pour mort. Par terre, t'es laissé, t'es la corde en acier, tu sois milliardaire. On sort tous les égouts, mais dans la roue, par les routes, ça te fait réparer les issues de secours. Ce soir, c'est dégueulasse. Réparer la boîte de ce dernier mot, c'est l'effet boulet de shit dans ta stéréo. Dans les cas, dans les halls, en mode composition. J'te dis ce que je vois, c'est pas de fiction, non, des visions. Paris bientôt sous les bombes, j'te jure, c'est pas du bidon. La capitale en flamme, tu nous verras nous mettre en action.
En action, action,
en action.
En action. Vas-y, bouge d'ici, bouge d'ici. We'll be right back.
courant pour cette nouvelle radio? Une radio que personne ne connaît, qui surgit de nulle part. Vous trouvez pas ça bizarre?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Hey, ya llegó, ya llegó. Estoy
cansado.
Justo Brasil.
Ay.
Yeah.
Hasta aquí.
Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Con la soca reggae. Disco junkie.
make the big mistake. And how long will it take before my eyes speak out?